Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 517 et nous sommes en juin 2023, l'an de grâce de présentation du Apple Vision Pro, dont nous allons vous parler aujourd'hui avec Nicolas Lelouch qui nous fait son petit rire malicieux. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ?
J'ai pas appris que ça va, bah oui, en effet c'est le mois de grâce du Apple Vision Pro. On va voir combien de temps on s'en rappellera de celui-là.
Tu vas pouvoir nous éclairer, justement, parce que tu fais partie des rares qui ont mis les mains, et alors comment on dit, qui ont mis la tête dessus.
Les yeux.
Une bonne question, est-ce que prise en main est le bon terme? Peut-être
qui ont mis un ordinateur sur leur visage.
prise en tête ou prise de tête, peut-être.
Prise en tête, prise de tête. C'est une bonne question, il va falloir y réfléchir d'ici la semaine.
Demandons à l'Académie française. On a aussi Cédric Ingrand qui est là avec nous. Salut Cédric, comment vas-tu ?
Salut Patrick, salut Nicolas, c'est un plaisir d'être là. Moi je vais faire de méchant, je vous le dis tout de suite.
Ah, très bien, très bien. Ça manque de méchant dans cette émission.
Voilà.
Super, je suis content de vous avoir tous les deux et je suis également content de pouvoir remercier Irio, Michel Chambon et Garom, Matt, Sébastien Baché, Lauria, Christopher et Stéphane Yoret, Lancelot Davizard, qui sont tous les patriotes. Alors, les premiers sont ceux qui ont rejoint le Patreon ces derniers jours, et les producteurs, Stéphane et Lancelot, sont ceux qu'on remercie tous les mois parce qu'ils ont eu le génie d'aller trouver le niveau spécial super secret sur patreon.com/rdvtech. Mais un grand, grand merci à vous tous. Vous le savez, cette émission n'existe que grâce à vous. Donc, un immense merci à tous de nous soutenir. J'ai un petit appel à faire passer avant qu'on commence l'émission. Si vous connaissez, si vous appréciez des femmes dans le monde de la tech, plus particulièrement dans les médias, venez m'en faire part dans le Discord, par exemple, ou sur Twitter. Je cherche des gens à inviter dans l'émission, et plus particulièrement des femmes, évidemment. Vous savez que c'est une chose qui me tient à cœur et que je fais régulièrement. Donc, si vous avez des personnes à me suggérer dans le Discord ou sur Twitter ou ailleurs, vous pouvez m'envoyer des noms. J'en connais déjà beaucoup, bien sûr, mais j'en cherche plus. Et du coup, premier gros sujet, donc les mains sur le vision, j'ai dit, les mains dans le cambouis, dans la vision, je sais pas. Nicolas Lelouch, qui était à Cupertino il y a quelques jours de ça encore, a pu tester l'Apple Vision Pro. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît... Alors, on va parler un petit peu d'Apple, hein, de l'Apple Vision Pro, le casque de réalité augmentée, virtuelle d'Apple qu'ils ont présenté la semaine dernière, dont on a déjà pas mal parlé. Et on va parler peut-être de quelques autres petits trucs qui ressortent de la conférence WWDC. Mais plus particulièrement, donc, l'Apple Vision Pro... Tu l'as essayé, il y a très peu de gens qui l'ont essayé. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu le séjour là-bas, et puis les impressions sur le Vision Pro?
Oui, bien sûr. Donc le contexte, hein, c'est que je suis journaliste pour le site numerama.com.
Et je t'ai même pas présenté, mais quel... j'ai tellement stressé de tous les...
C'est pas bon, peu importe, je le dis moi, il n'y a aucun souci. Donc du coup, je suis parti sur place en tant que journaliste de Numérama. Et c'est vrai qu'on est parti en se posant la question de est-ce qu'on aurait la possibilité de voir le casque. Ça fait des années qu'on en parle, il y a eu plein de rumeurs. Et c'est vrai que cette fois-ci, ça semblait assez évident qu'Apple allait le montrer, toutes les rumeurs s'accordaient là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que ça a été le cas. On a su après la keynote, on a reçu un mail avec le programme sur place. Et dans ce mail, il y avait expérience de démo. Enfin, il n'y avait même pas écrit Apple Vision Pro, c'était expérience de démo. Ça durait 1h30. Et généralement, quand on a un rendez-vous d'1h30, c'est pas pour présenter les nouveautés d'iOS. Donc, ça semblait assez évident qu'on avait eu la chance d'être sélectionné pour tester l'Apple Vision Pro. Ça s'est fait de manière vraiment très très digne d'Apple. Je l'ai raconté dans une vidéo que j'ai faite pour la prise en main du casque. On nous a amené dans une petite salle où on avait le droit de ne prendre aucune photo, aucune vidéo, qui est une sorte de salle d'attente pour médecins avec des canapés, quelques cookies, du café au milieu des tables. Mais c'est vraiment très bizarre l'ambiance là-dedans parce qu'on finalement on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones, on n'a pas le droit de prendre des notes. C'est extrêmement encadré. J'ai eu un premier test avec un expert qui m'a fait modéliser mon visage en 3D pour connaître l'espacement entre mes oreilles, pour adapter le son spatial du casque à mon visage. Et enfin, j'ai eu un test ophtalmologique où on m'a posé des questions toutes bêtes, du genre, est-ce que vous avez des lunettes? Est-ce que vous avez des lentilles? La réponse, j'ai de la chance, c'est non dans les deux cas. Donc moi, j'ai pas eu de test supplémentaire à faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant une demi-heure avec le casque Apple Vision Pro sur la tête.
Une demi-heure du coup, c'était 1 heure de préparation et puis 1 demi-heure de casque ?
C'est ça.
Ah ouais, quand
un
même.
Un peu ça, oui, pas vraiment, parce qu'en fait, ils encadrent ça sur l'espace de 1h30, mais en fait, ça commence à partir du moment où on vient te récupérer, on t'emmène jusqu'à la salle avec une petite voiturette de golf, après t'as le test, puis t'attends, après à la sortie, j'ai eu 20 minutes d'interview avec un des responsables du projet, donc les 1h30 englobent en réalité toute cette partie-là pour les journalistes, mais avec une demi-heure de prise en main du casque. Mais bon, c'était vraiment une demi-heure, c'était pas 30 minutes arrondi à 15 ou 20, comme ce qu'on peut voir chez certaines marques de temps en temps. Là, c'était 30 minutes chrono où j'avais vraiment le casque sur la tête.
Alors, ce qui ressort, on a eu quand même des impressions de différentes personnes hein, sur l'appareil depuis toutes ces longues années et depuis toutes ces longues années, depuis tous ces longs jours et heures. Ce qui ressort, en fait, c'est une impression qu'on avait à la présentation, c'est que technologiquement, le truc, il y a vraiment un effet waouh, quoi. Il y a un truc incroyable et tu c'est ce que tu dis également dans tes impressions sur Numérama. T'as été bluffé par la technique.
Tu résumes bien les choses. Je pense que il y a deux défis pour Apple. Le premier, il est technologique. Le deuxième, il sera sociétal. C'est dans l'acceptabilité du produit que ça va énormément se jouer. Le problème, c'est que si technologiquement on n'est pas prêt au lancement, eh ben ça sert à rien d'aller sur l'étape d'après. Dans tous les cas, ça peut pas fonctionner. Donc il y avait énormément d'enjeux pour eux là-dessus, c'est qu'ils devaient prouver que leur casque c'était pas juste un casque de réalité virtuelle classique, mais c'était un produit qui était vraiment différent et qui était impressionnant technologiquement. La bonne nouvelle, c'est que c'est le cas. Ce qu'il y a à savoir déjà sur moi, c'est que je suis un gros utilisateur de réalité mixte. Enfin, je dirais pas que je suis un gros utilisateur de réalité mixte, mais c'est un domaine que je connais bien. J'ai longuement testé le MetaQuest Pro. J'avais pu voir le dernier produit d'HTC à son annonce. Et de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, personne n'arrive en termes de qualité d'image, en termes de contrôle avec les mains, les yeux, au niveau d'Apple. L'image, elle est bluffante, c'est extrêmement immersif. La 3D, elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'habitude de voir. C'en est même troublant, parce que ce soit au cinéma, que ce soit dans des casques, que j'ai jamais vu une 3D qui s'étale en fait sur autant de mètres de distance, que ce soit sur des toutes petites vidéos ou des expériences en réalité virtuelle. Ben, on a vraiment l'impression d'avoir 50 mètres devant nous. Donc là-dessus, franchement, impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire.
Et au-delà de ça, que les autres casques de réalité virtuelle. Tu veux dire que t'as plus l'impression d'y être, en fait, ou...
Complètement, déjà parce que c'est beaucoup plus net, ensuite parce que l'effet 3D est vraiment adapté aux yeux et la technologie d'écran utilisée qui est le micro OLED, je pense que ça joue énormément pour améliorer tout ça. Au niveau de la définition des écrans, on la connaît pas précisément, mais Apple dit que c'est plus qu'une télé 4K par œil et que ça se sent. Le meilleur exemple, ça va être dans Safari par exemple, où quand on fait, j'ai pas mal travaillé avec un Quest Pro sur la tête, la réalité c'est que c'est pas mal parce qu'on a des écrans géants, mais qu'il n'y a pas une seule lettre qui n'est pas pixelisée. On peut distinguer chaque pixel sur le texte. Là, c'est pas le cas. Le texte est vraiment parfait dans un Safari. L'article est aussi net que sur un iPhone avec un écran Retina. Donc là-dessus, ils ont vraiment réussi leur coup. Et s'ajoute à ça le contrôle par les mains et par les yeux, qui est pour moi la plus grosse claque technologique que j'ai eue avec l'essai de ce produit. Ça ressemble à du contrôle mental, hein. On est vraiment à ce niveau-là de réussite. On regarde quelque chose, y compris un tout petit icône, on fait juste un petit pincement de doigt et ça fonctionne instantanément, y compris si la main elle est au niveau de la hanche. Franchement, là-dessus, c'est extrêmement réussi. Seul truc, moi, sur lequel j'ai un petit peu du mal, c'est
ce que j'appelle « passe-fou ». Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus précisément sur cet aspect-là, parce qu'il est, il est également assez important. Le contrôle par les yeux, ce que, là encore, disent tous ceux qui ont mis les, alors comme on dit, la tête dessus, ce que tout le monde dit, c'est que le fait de regarder les icônes, je crois que c'est toi qui le compares à la manière dont le curseur sur iPad se colle aux icônes. Tu regardes un petit peu une icône. Ouais, c'est ça. Et sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, quand tu regardes l'icône, elle se sélectionne, en fait. Et ensuite, comme il y a des caméras partout qui regardent devant et sur le bas également de ton corps, sur le casque, il y a des caméras partout, bah, tu pinces les doigts. C'est pas que tu as besoin de mettre la main devant le casque ou de la mettre dans une position particulière. Où que soit ta main, tu pinces le doigt et ça fait une sorte de clic sur l'icône que tu es en train de regarder. Et le tracking des yeux est tellement bon que c'est hyper naturel.
C'est exactement ça. C'est que si on compare à ce que fait Meta aujourd'hui avec le contrôle des mains, c'est que c'est déjà assez expérimental comme fonction, parce que c'est pas par défaut. Par défaut, c'est les manettes. Mais ça consiste en fait à mettre ses mains devant ses yeux et à avoir une sorte de pointeur lumineux qui sort de sa main, qui permet de sélectionner quelque chose et d'effectuer un geste pour valider. Chez Apple, on oublie cette notion de pointeur parce qu'il suffit de regarder quelque chose pour le sélectionner. Et surtout que les mains à l'intérieur de l'écran, on les voit en entier. C'est pas une réplique bleue des mains avec les doigts au bon endroit qui apparaît. C'est vraiment sa main en qualité parfaite qui apparaît au milieu de la vision, y compris quand on est en VR. Donc, je trouve que ce qui est assez fort avec cette démonstration, c'est qu'elle trompe complètement le cerveau. Quand on est dans un casque Meta, on sait que nos vraies mains permettent de contrôler la main virtuelle, mais le cerveau sait quand même que c'est une main virtuelle. Là, dans le casque d'Apple, on a l'impression d'avoir importé ses mains au sein d'une réalité virtuelle. Donc, c'est là où il y a aussi un véritable exploit, et ce contrôle des yeux fonctionne si bien que c'en est vraiment impressionnant.
Du coup, j'ai encore une question à ce propos. Tu dis que la 3D est super bonne, qu'on voit super bien, que les mains sont... On voit nos mains. Mais ce qui n'est peut-être pas clair pour certains, c'est que ça reste un casque de réalité, enfin virtuelle, qui couvre complètement la vision. Donc c'est une reproduction de ce que voient les caméras. Est-ce que les choses sont à leur place exactement par rapport à tes yeux, tu vois, ou est-ce que l'écran, bon, c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, est-ce que là t'as juste l'impression de regarder à travers des lunettes vraiment?
Oui, alors c'est ce que j'allais dire dans les points négatifs juste avant qu'on revienne sur les mains. Alors je vais répondre en deux parties à ta question. Est-ce que les choses sont à leur place? Oui, parfaitement. La 3D est bien respectée, les objets sont pile au bon endroit.
Mais c'est assez intelligemment là-dessus. Qu'on voit, hein.
C'est une image vidéo. En fait, il y a plein de caméras qui sont autour du casque, qui filment et qui permettent en fait de recomposer en temps réel, grâce aux puces M2 et R1 du casque, le monde en 3D à l'intérieur des écrans. Donc, on ne voit pas vraiment le monde, on est coupé du monde techniquement. Le problème, c'est que c'est pas une question de disposition de l'espace, c'est une question de couleur, c'est une question d'image. Aujourd'hui, on a vu chez aucun constructeur des caméras capables de répliquer la réalité de manière parfaite. On sait qu'on regarde à travers un écran. Et c'est tout le paradoxe du casque, c'est que finalement, quand on est dans Safari, c'est hyper net, il n'y a pas un pixel visible. Par contre, quand on voit le vrai monde avec les caméras du casque, c'est un petit peu pixelisé, c'est un petit peu bruité, les couleurs sont un peu déformées. Donc, on sait très clairement qu'on a un casque sur les yeux avec une caméra qui réplique la réalité. C'est pas encore fait pour être porté H24 toute la journée. C'est fait pour être porté quand on travaille une heure, deux heures. Mais c'est pas encore un remplaçant des lunettes.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont notables? Parce que moi, évidemment, j'ai pas eu la tête dessus, mais d'autres choses que tu voudrais mentionner sur le casque lui-même? Techniquement.
Un seul petit point négatif à rajouter aussi, mais Apple le présente comme un avantage. avantages. Après, ils sont malins, ils retournent le truc dans leur sens. C'est le fait que le champ de vision, pour moi, il n'est pas parfait. Personne n'en a fait de champ de vision parfait, mais vous savez, il y a un petit peu cet effet quand on a un casque sur la tête, où on va avoir une sorte d'anneau noir autour des yeux, donc on voit vraiment la réalité virtuelle, mais quand je vous vois sans lunettes ou quand je vous vois dans le vrai monde actuellement, ma vue, elle s'étend à 360 degrés et elle déborde sur les côtés. Bah là, c'est pas vraiment le cas parce que ça reste un casque technologique. Ce que me dit Apple quand on pose la question du champ de vision, c'est que finalement, c'est fait pour mettre les gens dans un produit technologique sans mélanger le virtuel et la réalité. Donc, eux s'en sortent en nous disant que le produit n'est pas fait pour être porté tout le temps et ils appellent justement à la déconnexion. Leur message, hein, de toute façon, on va sûrement en parler avec Cédric dans un instant. Eux essayent de ne pas parler de réalité virtuelle, mais parlent d'ordinateur spatial et ils le voient comme un remplaçant du Mac et personne n'est collé tête contre son Mac toute la journée. Donc, c'est comme ça qu'ils vont réussir à s'en sortir pour dire que c'est un produit fait pour être utilisé ponctuellement.
Ouais, le jour où ils réussiront à faire un champ de vision à, je sais pas, 200 degrés, tout à coup, cette contrainte disparaîtra.
Ah bah peut-être que d'un coup, nous dirons de le porter tout le temps.
C'est ça. Écoute, donc tu nous confirmes effectivement qu'il y a un vrai passage d'étape technologique avec le casque. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, l'autre partie de la question qu'on évoquait déjà un petit peu la semaine dernière, c'est celle des usages. Avec un petit bémol parce qu'il est difficile d'imaginer peut-être des usages avec un truc qui est vraiment vraiment nouveau ou qui fait tellement mieux ce qu'on a vu jusqu'ici. Et je vais revenir vers toi dans un instant, Nicolas, mais je vais poser la question à Cédric qui nous disait qu'il allait être le méchant de l'émission.
Méchant du groupe.
C'est ça. Voilà. J'ai comme l'impression que t'y crois pas trop, toi.
Si, alors, comment dire ? Si je dois résumer, ce qui est une opinion, hein, c'est pas, qui est pas aussi éclairée que celle de Nicolas, parce que je l'ai pas essayé, mais je crois sur parole tout ce qu'il nous dit, parce qu'en plus ça recoupe tout, plein de choses que plein de gens qui ont pu l'essayer disent. On est vraiment face à la plus aboutie, la plus sophistiquée, la plus élégante et la plus impressionnante des solutions à un problème qui n'existe pas. en tout cas dans le grand public. C'est-à-dire que ça ne remplace rien, ça ne génère pas de nouveaux usages qui justifient qu'on se jette tous dessus. Je parle même pas du prix, parce que le prix pour moi est un truc hors sujet. Le prix, c'est un prix de... On est à la limite du prototype. Souvenez-vous, les Google Glass, oh, 1 500 $, c'est affreusement cher. Oui, mais on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est intéressant ou pas? Et est-ce que par les économies d'échelle, on peut le faire tomber à 1 500, puis à 1 000, puis pourquoi pas à 500? Là, évidemment, les choix technologiques qu'a fait Apple, tu vois, les 12 caméras, etc. Enfin, ils ont... on est au-delà du le solutionnisme technologique. Le problème, c'est que le solutionnisme, il s'attaque à un problème. Et là, il s'attaquait à des problèmes. C'est en gros à toutes les lacunes des casques précédents. Et ça, ils l'ont fait, semble-t-il, avec une acuité, une réussite, une pertinence. Enfin, voilà. Mais au prix, évidemment, d'investissement dingue en termes de hardware. Pour l'instant, et on pose la même question face à ce casque-là qu'on en posait face à d'autres, sauf pour des usages très spécifiques, parce qu'on peut en imaginer plein, mais qui étaient des choses qu'on avait déjà vues chez Microsoft ou chez Sony ou ailleurs. On voit pas encore l'application ou les applications qui font que il va falloir qu'on se rue dessus, même au jour où il passera sous la barre des 1 000 €. Parce que on a envie, en tout cas, que ce soit vrai dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et du coup, ben voilà, je suis d'accord, et on va en parler, je pense, sur le problème de l'acceptabilité. Mais après tout, si tu veux, on a tous mis des ordinateurs à nos poignets et finalement, maintenant, il est presque acceptable de regarder ta montre quand c'est pas pour regarder l'heure, sans que ce soit une sorte de message subliminal à la personne à qui tu parles en disant je m'emmerde le temps. Enfin, là.
parfois, on se pose la question quand même.
Donc, on peut rêver, même si le visage est un autre animal, si tu veux. Je suis super impressionné par le device, par l'appareil. Mais ça répond pas à la question qui est cruciale pour moi, qui est mais pourquoi faire au juste ? Moi, j'ai parlé à plein de gens, hein, qui disent ah, faut acheter moi, je vais en acheter un, comme ça. Il y a une des questions auxquelles on n'a pas encore vraiment de réponse, qui est la question du confort. Parce qu'évidemment, dans les démos, on dit, regardez, vous allez regarder un film sur un écran qui va faire 25 mètres de base, etc., virtuellement. La question, c'est, si tu veux, Avatar, c'est 3h40, quoi. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une fatigue oculaire qui fait que, qui est un problème récurrent avec tous les casques et qui les limite justement à des usages qui sont, comme on le disait là, ponctuels pour un usage, je sais pas, une formation, une expérience, un jeu, un truc, mais qui n'est pas le truc que tu vas avoir sur le nez toute la journée, ce qui est pourtant le truc qu'Apple t'affiche, si tu veux, en disant, regardez, tu n'as plus besoin de le retirer parce que ton environnement est là, on te voit. On n'a pas parlé d'EyeSight, qui est ce truc qui est à la fois génial et tellement creepy que, enfin bon, où la caméra prend, enfin recrée une espèce d'image de tes yeux pour l'afficher aux gens qui sont devant toi, pour leur signifier le fait que tu es dans une expérience totalement immersive ou pas, en gros que tu les vois ou pas.
Mais
c'est génial sur le papier. Maintenant, est-ce que tu as envie de parler à quelqu'un qui a un masque sur les oreilles? Enfin, ça ne résout aucun des problèmes et ça ne répond pas aux questions auxquelles on pouvait légitimement se poser depuis les premières générations de casques successives.
C'est un petit peu la remarque qu'on avait la semaine dernière également à l'annonce, mon impression également. Technologiquement, ça a l'air incroyable, mais les usages, c'est un autre problème. Du coup, toi, Nico, avec ton expérience physique, pratique réelle de l'appareil, est-ce que tu te dis tu vois tout de suite ou tu restes perplexe?
Alors, je vois un peu plus que Cédric, mais je suis d'accord avec lui quand même sur l'invention d'une solution à des problèmes qui n'existent pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est proposé par le casque qui n'était pas possible avant. L'approche d'Apple, c'est de dire on va faire les choses en mieux. Et pour avoir eu une longue démo avec plein d'applications différentes en réalité mixte, réalité virtuelle, il n'y a pas tout qui m'a convaincu. Par exemple, les souvenirs 3D, je trouve que c'est le truc le plus inutile que j'ai vu récemment dans ma jeune carrière de journaliste.
Mais décris les souvenirs 3D.
Ouais, je peux les décrire. L'idée, c'est que Apple permet de prendre des photos ou des vidéos en 3D avec le casque. Il y a un bouton dédié à ça quand même. Je trouve ça assez fou d'avoir un bouton juste pour une seule fonction qui va permettre en fait de filmer ses proches pendant 1-2 minutes et après de les revoir dans le casque avec la fameuse profondeur de malade dont je vous parlais. Donc ça permet vraiment de se replonger dans un endroit. Donc d'un côté, c'est cool, mais de l'autre, qui va filmer avec un casque? Et même c'est dans ça, l'hypothèse où
L'exemple qu'il donnait avec la fête d'anniversaire de la fille, t'imagines le père ou la mère qui
avait une question pour
la fête.
Non, c'est pas du tout un bon appareil photo. Et même dans l'hypothèse, si on regarde bien leur communication, ils disent que c'est la première caméra 3D d'Apple. Elle laisse supposer qu'il y en aura d'autres et que l'iPhone est un candidat sérieux pour ça. Mais même dans l'hypothèse où on ajoute un deuxième capteur photo principal à l'iPhone pour prendre des photos ou des vidéos en 3D, à la fin, on pourra pas les consulter sur l'iPhone et on va quand même créer une fonction très gadget uniquement pour des gens qui les liraient dans un casque et qui du coup feraient d'eux-mêmes la démarche d'aller regarder des vidéos dans leur casque. Donc moi, je crois pas trop dans cette fonction. Je pense que là, Apple est justement dans cette quête d'usage nouveau qui du coup le perd un petit peu et l'éloigne des réalités. Par contre, après, il y a plein de choses qui sont plus intéressantes. On a parlé d'Avatar. Certes, je ne peux pas dire si le produit est confortable si on regarde 3h40 sur la tête, parce que je ne l'ai eu que 30 minutes. Ce que je peux dire, c'est qu'en 30 minutes, c'était plus léger que ce que j'avais expérimenté ailleurs. Maintenant, est-ce que je vais pas avoir mal aux yeux? Est-ce que je vais pas avoir un peu de nausée à un moment? J'en sais rien. Mais en tout cas, Avatar et l'immersion cinéma qu'il propose en 3D, bah c'est hyper cool. Je sais pas, sauf si on a une télé de 75 pouces, 85 pouces, 4K OLED à la maison, je pense en effet que ça peut être plus sympa de voir un film à l'intérieur du casque que si on est seul. Il y a plein d'autres exemples. Moi, je suis un gros amateur de football. On a eu une démo justement du football. Et il se trouve qu'Apple est en train d'acheter les droits sportifs pour certaines compétitions. Et cette démo, elle te plongeait au premier rang dans un stade rempli avec une ambiance sonore parfaitement représentée. Sauf que c'est pas juste une vidéo 360 comme on a déjà vu ailleurs. C'est une vraie captation 3D. Avec la profondeur sur tout le stade, avec les cages qui dépassent, avec le ballon qui s'envole, avec les joueurs qui ressortent. Et ça aussi, c'est hyper intéressant parce que on peut pas forcément aller à tous les matchs de ses rêves toutes les semaines. Si on a la possibilité avec un abonnement de pouvoir les regarder en étant sur le bord de la pelouse, c'est cool. Ça crée aussi des usages un petit peu intéressants. Et après, moi, je m'intéresse à tout ce qui est bureautique, etc. Là, je suis en train de réaliser, de participer à ce podcast avec vous, avec mon MacBook posé sur une table. Ben, en vrai, pourquoi pas, dans le futur, le faire avec un casque qui me permettrait d'avoir trois écrans virtualisés, de ne pas avoir à switcher d'une page à une autre pour répondre à mes notifications sur Slack quand j'en reçois. Ça peut être intéressant.
Mais on ne te verrait pas. On verrait de toi qu'un...
Non, vous ne me verrez pas. Vous verrez une représentation en 3D. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent, ça ne changerait pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est clair que sur la captation vidéo, il y a une différence. Moi, je pense que... l'appellation ordinateur du futur, certes, est du marketing, c'est un casque de réalité virtuelle, mais Apple l'appelle ordinateur spatial, mais c'est quand même l'approche la plus intéressante et c'est la déclaration d'intention que j'attendais d'Apple. Sa méta qui parle de métavers, qui parle de divertissement, je trouve cool qu'une boîte comme Apple dise non, nous, l'objectif à terme, c'est de faire un Mac qui se met devant les yeux. Et bah pourquoi pas? Si le Mac, c'est pas un objet qu'on transporte, qu'on déplie avec un clavier, un écran, qu'on doit laver de temps en temps, mais un produit qu'on met devant les yeux, qui permet d'avoir plein d'applications, de ne pas avoir à passer de l'iPhone à l'ordinateur et de tout faire justement avec une interface adaptée à la vision. Pourquoi pas? Mais je pense qu'on en est très loin.
C'est intéressant parce qu'à la suite de la keynote, moi j'ai passé le lendemain matin, tu vois, au bureau devant mon iMac là, à me demander, ok, ce que je fais là, comment je le ferais avec un casque. Alors je parle pas de trucs un peu compliqués, tu vois, genre du montage sous Final Cut, faut pas non plus, enfin, tout est possible, mais enfin quand
pourquoi
même.
Pourquoi pas en vrai, si tu connectes pourquoi un clavier et une souris.
Oui, mais
parce que c'est finalement juste un écran géant.
Ah oui, alors si tu connectes un clavier et une souris.
C'est possible, hein. Parce que ils le mettent en avant,
les mêmes c'est. Ouais, la première question que je me suis posée, mais comment je tape un mail? Ah, je prends un clavier, mais je le vois sans le voir. Ouais, ok.
Tu le vois complètement. Tu as, n'oublie pas que tu as tout l'environnement.
Avec le passe-foot, tu le verrais.
Tout à fait. Et en fait, l'expérience s'est arrêtée au moment où quelqu'un est rentré dans le bureau et je lui ai dit, tiens, regarde. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, mais en fait, là, tu pourrais pas regarder.
C'est un excellent exemple. La personne qui rentre dans ton bureau a également un Vision Pro sur les.
Ah oui,
sur
la tête. Oui,
après, pour l'instant, ils n'ont pas présenté d'usage à plusieurs avec des Vision Pro. Je pense que ça viendra dans les futures versions de Vision OS. Mais on est sur un produit qui est fait pour être utilisé tout seul. Je sais que ça fait peur à certains qui s'étonnent en fait de voir ça en disant oui, en fait, Apple va nous isoler du monde et c'est pas le futur dont on rêve. Mais moi, je trouve que ça, c'est un petit peu hypocrite. Pour le coup, comme vision, parce que la réalité, c'est qu'on passe plein de temps dans sa journée tout seul sur son téléphone, ou même seul à la maison en attendant que les autres rentrent, tout ça. Donc, si plutôt que le faire sur un téléphone ou devant une télé seule, on le fait avec un casque, bah, en fait, avoir un produit pour un usage seul, il n'est pas complètement bête. Enfin, ce produit peut avoir du sens. Mais c'est clair que ça pose des questions sur le travail collaboratif ou à plusieurs. C'est clair que ça sera pas facile de répliquer le réel dans le virtuel.
Oui, on passe volontiers plein de temps isolé sur le petit écran de son smartphone. Je faisais une expérience intéressante. Aller au restaurant et regarder les gens qui déjeunent ou qui dînent ensemble. Quand vous avez un couple, s'il y en a un des deux qui, par exemple, se lève pour aller aux toilettes, la vitesse à laquelle le smartphone est dégainé par l'autre.
Incroyable.
On ne sait pas ne rien faire. Donc, en fait, personne à la maison.
Ça, on ne sait plus ne rien faire.
À la maison, c'est rare. On attend que son conjoint ou sa conjointe rentre en écoutant juste de la musique et en faisant rien. On a toujours un écran, on regarde, on fait des choses. Si dans le futur, on le fait en mettant ce casque, on continue à voir son appart, on peut ranger, on peut faire la vaisselle tout en ayant des vidéos projetées, tout en ayant la possibilité de travailler, de se divertir. Je pense que le produit est intéressant, mais en effet, pas pour l'instant parce qu'il est trop cher.
C'est intéressant, il faut remonter un peu dans l'histoire d'Apple pour voir comment les produits ont évolué avec le temps, en fait. Comment les V2, V3 ont changé des V1. Il faut se souvenir, l'iPhone premier du nom, il n'y avait pas d'App Store.
Il n'y avait que de la 2G. Disait,
oui, et puis qui disait, vous allez faire des web apps, c'est super, c'est compatible avec tout, etc. Et quelqu'un l'a poussé du coup d'un vent en disant, chef, je crois qu'on a une meilleure idée. Et idem pour l'Apple Watch. Souviens-toi, quand on nous a présenté l'Apple Watch première du nom, c'était aussi une sorte d'ordinateur à tout faire. Enfin, d'un coup, on décrivait plein d'usages, tout ça. Finalement, on s'est recentré sur, donner l'heure, les notifications et faire du fitness.
Je pense que c'est un petit peu, si ça se passe comme ça avec le Vision Pro, c'est la méthode Tim Cook, là où Steve Jobs avait un produit hyper précis, hyper designé pour faire ça, ça et ça. On a l'impression que Tim Cook, là, sur les deux produits qu'il a, managés, il lance et puis il n'est pas trop, trop sûr de à quoi ça va servir. Il a plein d'usages possibles et on voit
les AirPods, c'était très clair.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Ah bah, tu parles quand même du produit grand public le plus successful de la dernière décennie. Hein. Ah,
ça, ouais. On oublie souvent les AirPods dans l'héritage.
Ah, mais alors moi, je les oublie pas.
Ouais, pareil, j'en ai un seul.
Je suis l'apôtre des AirPods depuis longtemps.
Bon, mais écoutez, t'en as perdu combien? Je voulais revenir sur un truc.
Et puis, on avancera parce que.
Vas-y. Ouais, sur l'acceptabilité. Je disais tout à l'heure, le visage est un autre, c'est autre chose. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut se mettre, tu vois, sur le bras, il y a des trucs qu'on peut se mettre au poignet, il y a des trucs qu'on peut porter comme un vêtement, etc. Le visage, c'est un truc quand même très particulier. Je serais évidemment hyper curieux de voir toutes les études qu'Apple a financées sur le sujet, de sociologues, de psychologues, sur l'acceptabilité d'avoir un casque, etc. Mais d'ordinaire, tu ne mets sur ton visage que des choses qui renforce ton attractivité, ta capacité à trouver un partenaire sexuel. Enfin, tu vois, toute l'industrie du luxe est fondée là-dessus. Enfin, et là, non. Là, clairement, c'est pas ça qui va. Ça va pas te. Enfin, il va peut-être se passer des trucs intéressants sur les écrans de tes lunettes, mais à l'extérieur, ça va pas générer de nouvelles interactions. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se demande. Ça fait partie. Au contraire.
Non, je suis d'accord. Non, mais l'exemple des Google Glass qui avait provoqué des gens qui étaient tabassés dans des bars aux États-Unis. On n'acceptait pas le fait que les gens portent de la technologie sur le visage.
Donc, la caméra, le
produit a le même problème.
Alors qu'en plus, c'était un truc très léger, en fait, les Google Glass par rapport
Absolument,
à ça.
Absolument, ouais, bien sûr.
Mais du coup, en fait, je me pose la question de pourquoi ils l'ont lancé. Alors, ils l'ont lancé à WWDC. C'est assez logique parce que c'est un truc à mettre dans les mains des développeurs, parce que à défaut de pouvoir déclarer voici les usages incroyables que vous ne pouviez jamais faire avant, on va essayer de voir si d'autres ont des idées. Mais c'est curieux dans la démarche habituelle d'Apple, qui est quand même de donner un truc très packagé sur voilà exactement ce que vous allez faire avec, et voilà pourquoi c'est un truc qui est devenu indispensable. Moi, j'ai été frappé de voir que Tim Cook l'avait pas mis. Ça, à aucun moment pendant normalement, enfin c'est quand même le truc le plus logique du monde. Mais me sont revenues toutes les images de toutes les keynotes précédentes, si tu veux, de Jobs sortant l'iPod Nano de la micro poche de son jean ou le MacBook Air d'une enveloppe. Enfin, c'est quand même t'es quand même dans le temple de la démo, et là tout à coup c'est regardez cette vidéo. Alors peut-être parce que c'est un peu tôt, mais c'est un peu c'est un peu décevant. Et on sait une chose quand même, c'est que il y a peu de gens que Tim Cook déteste dans la vie. Dans l'eau, il y a quand même Mark Zuckerberg. Alors il a quand même déjà mis des grands coups de hache sur son modèle économique, si tu veux, avec toutes les choses sur la privacy dans Safari et ailleurs. Il y a un prof d'économie que j'aime beaucoup qui lui a une théorie qui dit en fait ce truc n'est pas destiné à se vendre. D'ailleurs, ça explique le prix, ça explique tout ça, etc. C'est juste mettre un coup d'arrêt aux ambitions de Meta dans le domaine, parce qu'évidemment, quoi que fasse Meta maintenant, tu vas mettre des produits sur tes yeux et tu vas dire c'est moins bien que le Vision Pro. même malgré la bibliothèque d'applications, malgré tout ça, parce que là encore, j'étais frappé aussi qu'il n'y avait pas une mention du mot métaverse, mais là aussi, de toute façon, dans une keynote d'Apple, c'est très simple. On a tendance à se concentrer sur le doigt alors qu'il faut regarder la lune. Le doigt, c'est ce qu'Apple te montre. La lune, c'est tout ce qu'Apple ne te dit pas et ne te montre pas. Et à un moment, je fais un exercice à la fin de chaque keynote, c'est que je me pose, je prends un bloc-notes et je dis voilà toutes les choses qu'ils n'ont pas dites. Parfois c'est le prix, parfois c'est la comparaison. Avant c'était des trucs sur les specs, quand il y avait vraiment une bataille de specs entre les smartphones, etc. Et tu te dis mais tiens c'est bien, ils n'ont pas parlé de ça, ils n'ont pas besoin, etc. Et là typiquement voilà. Mais c'est un produit préliminaire, c'est une première génération. Il faudra attendre la deuxième, la troisième, si elles viennent, pour voir. Mais c'est intéressant parce que la culture d'Apple, et ils le disent délibérément, c'est de dire non. Tout comme ils ont fini par dire non à la télé, tout comme on ne sait pas si un jour la voiture sortira, etc. Et là, je ne comprends pas jusque-là pourquoi ils n'ont pas dit. Voilà.
Eh ben, je pense qu'ils croient au produit. Hein. Moi, ça me paraît très étonnant quand même qu'ils aient fait ça juste pour faire chier Zuck. Mais bon, peut-être.
Ah non, ce n'est qu'une théorie. Mais le produit en lui-même, technologiquement, il est incroyable. Il est dingue, quoi.
Bon, écoutez, je pense qu'on va passer à notre deuxième sujet, qui est ce qui se passe chez Reddit. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Reddit ou qui sont pas super fans de Reddit. C'est quand même un site qui est extrêmement important sur Internet aujourd'hui. Il pousse la recherche sur le net dans une direction bien précise, parce que Reddit, vous le savez, c'est des gens qui peuvent... Alors, c'est un site qui ressemble à un mélange entre un réseau social et un site de recommandation. En gros, on peut mettre un lien ou un commentaire dans une sorte de sous-forum dédié sur plein de sujets. Il y a des milliers et des milliers de subreddits. Et les utilisateurs peuvent voter pour faire remonter ou descendre le commentaire ou la question ou le lien. Et c'est tellement important parce que les gens, c'est des vrais gens qui posent des questions et des vrais gens qui répondent aux questions, que y a beaucoup de gens qui vont sur Google et qui font une recherche avec, dans le nom de la recherche, Reddit, pour avoir une réponse d'une vraie personne et pas juste un site trouvé par Google qui a été bien optimisé en SEO. Donc, Reddit, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Reddit ? Le président de Reddit, qui fait partie des fondateurs, Steve Huffman, a décidé de faire payer l'accès aux API, aux interfaces de communication de Reddit, qu'utilisent des applications tierces, et de faire payer cet accès très très cher. C'est un petit peu un miroir de ce que fait Elon Musk chez Twitter. Ils sont plusieurs à avoir copié cette décision. Le problème, c'est que ça a provoqué un mouvement de révolte chez Reddit, donc dans la communauté. C'est vraiment un site communautaire, hein, la communauté est très importante, et chez les développeurs d'applications tierces, dont l'un en particulier, l'application Apollo, qui a dit, le développeur de cette application a dit, écoutez, moi, avec ces tarifs d'API, à partir de demain, si c'est mis en place, je dois payer 20 millions de dollars par an pour faire fonctionner mon app. Inutile de vous dire que je ne peux pas, c'est une app modeste, avec quelques milliers, peut-être 15 000 utilisateurs payants. Donc, l'application ferme. D'autres développeurs ont dit à peu près la même chose, et des centaines, des milliers de subreddits ont décidé de faire la grève. Comment on fait la grève sur Reddit ? C'est qu'on passe le subreddit en privé, donc il y a des subreddits sur tous les sujets, hein, musique, Apple, Street Fighter, enfin plein de sujets différents, et on passe le subreddit en privé, donc plus personne n'y a accès. Donc en gros, ça limite l'utilisation du site. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Parce que les subreddits sont gérés par les modérateurs et pas par Reddit eux-mêmes. Et c'est vraiment, ça fait partie de la culture, hein. Reddit pourrait dire « Non, non, bah maintenant il est ouvert et taisez-vous », mais ça fait complètement partie de la culture. Ça serait pas possible de décider de faire autre chose que ce qu'ont décidé les modérateurs des différents subreddits. Steve Huffman, lui, a répondu « Écoutez, c'est bien gentil toutes ces histoires, mais Reddit perd de l'argent depuis sa création. Donc, on a besoin de gagner de l'argent et les API, c'est un moyen de gagner de l'argent. Vous utilisez notre produit gratuitement depuis des années, c'est très cool, ça permet à tout le monde de se développer, mais nous, on n'est pas profitable, on est déficitaire depuis des années, donc il faut qu'on fasse un truc. » Il faut ajouter le contexte que Reddit a été racheté il y a quelque temps par Condé Nast et que Condé Nast, bah, ils sont pas, peut-être pas super fans de perdre de l'argent chaque année par ce site qui est hyper important pour Internet, mais qui n'arrive pas à rentrer de profit. Voilà tout le contexte. Je suis
tout est 100%. Dit.
Ouais. Est-ce que vous êtes du côté plutôt Apollo ou côté Steve Huffman ou qu'est-ce qui et puis est-ce que c'est vraiment important cette histoire ? Si ça se concrétise, si Reddit, enfin j'en sais rien, si Reddit disparaît, il n'y a pas de remplaçant quoi à Reddit. Je vais poser la question à Nicolas qui a été.
Je vais essayer d'être rapide pour laisser un peu Cédric parler. En fait, ce qui est dommage, c'est que cette guerre-là, là, elle touche Reddit, mais elle n'est pas nouvelle. On l'a vu chez Instagram il y a quasiment 10 ans, quand Facebook est arrivé, ils ont tué toutes les applications qui utilisaient Instagram parce que il fallait qu'on passe par leur application avec leur publicité et qu'on soit pas indépendant de tout ça. Et Twitter, c'est sans doute l'exemple le plus connu. Personnellement, avant l'arrivée d'Elon Musk, je n'avais jamais utilisé l'application Twitter. J'utilisais Tweetbot, qui est pour moi la meilleure application pour utiliser Twitter de manière professionnelle. C'est juste un flux d'informations. C'est pas d'algorithmes, c'est pas des publicités, c'est pas des vidéos de partout. C'est juste un flux texte. Le problème, c'est que quand des gens comme Elon Musk ou aujourd'hui la nouvelle direction de Reddit est en place, bah, elle se rend compte que la communauté, c'est bien, c'est ce qui a permis de créer la notoriété. Mais si ces gens, finalement, qui sont les utilisateurs les plus actifs, ne consomment pas à l'intérieur de l'écosystème, eh bah, ben, ils rapportent pas d'argent. Donc, on se retrouve sur un dilemme sur est-ce qu'on attaque l'application en elle-même et qu'on prend le risque finalement de tuer un petit peu son ADN, ou est-ce que on décide de préserver tout ça au risque de pas faire de l'argent. Et je pense que je serais pas étonné que Reddit change un petit peu ses règles, essaye de sauver Apollo, parce que c'est quand même une application très connue. Mais la réalité, c'est que pour eux, même si Apollo venait à mourir, même si des milliers de personnes venaient vraiment à partir, la réalité, c'est qu'à la fin, ils veulent être une application globale utilisée par des millions de personnes et que le grand public se contente d'aller sur le site de Reddit. Donc, pour eux, malheureusement, ça fait mal quand on fait partie de ces communautés-là, mais le mieux à faire économiquement est en effet de tout tuer et d'être le seul moyen d'accéder au service.
En fait, on me rappelle dans la chatroom qu'il y a une entrée en bourse pour Reddit qui se prépare aussi, donc évidemment,
évidemment mieux garder. Évidemment, non, mais c'est clair, économiquement.
Ouais.
Ce serait bien d'avoir des chiffres à montrer, quoi.
On a le problème avec Twitter aujourd'hui, mais qui était le problème qui s'était posé il y a 10 ans déjà, quand Twitter avait changé ses règles et que toutes les applications tierces avaient été. Donc c'est un problème récurrent. On croit grâce à la communauté, mais à un moment il faut aussi faire de l'argent. Et donc chaque utilisateur qui utilise Apollo ou Reddit is fun ou Dieu sait quoi, c'est un utilisateur qui regarde pas des pubs sur Reddit. Donc pardon, continuera après.
Plus tu ouvres ta plateforme, plus les applications peuvent soudain en faire plus différent ou mieux que ton application à toi. Enfin, ça devient quand même un peu compliqué à un moment. Oui, je suis content que tu aies rappelé ce qui s'était passé. Oui, c'est ça, il y a une bonne dizaine d'années où toutes les applis tiers sur Twitter, on leur a dit, alors en fait, c'est fini. Ou alors dans des conditions de fait d'API un peu cher.
C'était genre, on n'a pas dit c'est fini, barrez-vous, mais on change les API, on change les trucs de telle manière à ce que ça soit impossible à continuer. Voilà. Comme là, les 20 millions, ils ont bien chez Reddit quelqu'un qui a calculé combien ça coûterait à Apollo. Je doute que Apollo coûte 20 millions de dollars par an à Reddit, sinon il y a un problème, quoi.
Non. J'en doute fort. Mais ça, tu soulignes juste un truc qui est constant, c'est que c'est toujours dangereux d'aller faire tes châteaux de sable dans le bac à sable des autres, quoi. Parce que tu es à la merci de ce genre de choses et qu'un jour on te rappelle que en fait non, t'es pas chez toi, et que voilà, quoi. Donc c'est difficile d'en être surpris. Alors après, on peut crier à la liberté qu'on assassine, ok, mais enfin, de fait, sur une plateforme qui structurellement perd de l'argent, parce que c'est là que je me suis reposé la question en disant, mais c'est vrai, moi j'utilise Reddit. Alors j'utilise Reddit sur le web et au travers de leur appli. T'es pas agressé par la pub, hein, dans l'ensemble. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de brand safety, enfin, parce que justement, Reddit maîtrise pas complètement toujours ses contenus, enfin, etc. Donc, bon. Mais comment en serait-il autrement ? À un moment, il faut qu'ils trouvent les moyens au moins de rentrer dans leur sous, quoi. Enfin, d'en faire un produit. Un produit.
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de discussions et la révolte des subreddits, en fait, qui se trompent de pas qu'ils se trompent de cible, mais on a l'impression que l'intention est de faire de l'argent avec les API. Je me demande si l'idée, oui, peut-être faire un petit peu d'argent avec les API, mais les applications tierces sont un petit peu on les désactive en pratique, parce que comme ça, tout le monde utilise l'app tierce. Donc, c'est intentionnel, quoi. C'est pas que tout à coup, alors peut-être qu'il va dire, bon, on change le truc, on va dire qu'il peut nous, on va réduire un petit peu le coût pour Apollo. Peut-être que la révolte va être trop forte. Parce que beaucoup de gens disent aussi, mais il y aurait un autre moyen, peut-être d'autres moyens, en fait, de fonctionner votre cerveau, essayer de trouver une autre idée pour gagner de l'argent. Et peut-être qu'il y a de meilleures idées pour gagner de l'argent. Mais je me demande si les calculs qu'ils ont faits, c'est pas, on vivra mieux sans les apps tierces qui nous annulent des vues de pub, quoi.
Voilà.
Oui. Ouais. L'exemple Twitter est le bon, parce que Twitter, finalement, ils avaient trouvé une solution intermédiaire, mais ça les saoulait bien quand même que ces applications continuaient d'exister, mais ils avaient résisté, ils avaient répondu à la colère des fans. Au final, Elon Musk est arrivé, il s'est même pas embêté, il a coupé le truc du jour au lendemain sans prévenir personne, et il s'est même pas excusé. Voilà, je suis loin de défendre Elon Musk, hein, mais en tout cas, voilà, je pense que ça, c'était très représentatif de ce que ça coûtait à Twitter et de à quel point les applications tiers, c'était juste un caillou dans la chaussure et ils n'en pouvaient plus, ils voulaient s'en débarrasser. Et je pense que je ne serais pas étonné quand même que Reddit change un petit peu d'avis parce que c'est très communautaire comme application. Ouais. Donc, ils vont peut-être autoriser tout ça. Mais même s'ils lancent une formule payante pour les fans de la première heure, pour rémunérer Reddit, qui font des choses en plus, la finalité, c'est que dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, ces applications-là, elles continueront de poser problème de par leur existence. Donc, je souhaiterais qu'elles restent. Personnellement, j'aime bien Apollo. Je trouve que l'application est très bien conçue. Mais j'ai un petit peu peur que sauver Apollo aujourd'hui soit juste le condamner à mourir dans quelques années, quand il y aura un nouveau patron qui sera plus méchant.
Bon, donc voilà pour Reddit. C'est vraiment un moment important pour le net. Et même si c'est le blueprint, les plans en général de ces applications, de ces services qui croissent, qui grossissent grâce à leur communauté et qui finalement doivent faire de l'argent, bah là, Reddit, c'est quand même, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg Internet. On en parle beaucoup moins que Twitter ou Google ou je sais pas quoi, mais c'est un service, un site et une communauté, une série de milliers de communautés hyper importantes pour le net. Donc, ce qui se passe là, je tenais à en parler dans les sujets importants de l'émission. Et on va parler au sujet un petit peu plus, qu'on va traiter un petit peu plus rapidement. Avant ça, je voudrais vous rappeler que cette émission existe grâce à vous, you, que je pointe du doigt sur la webcam et dans les écouteurs. Vous sentez mon doigt qui sort un petit peu de l'écouteur ? patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous appréciez la manière dont on discute de tous ces sujets, si on vous apprend des choses, si on vous fait rigoler un petit peu aussi parfois, patreon.com/rdvtech pour nous soutenir. C'est le cas depuis presque 10 ans que je me suis lancé en indépendant. Ça fait plus longtemps que ça que l'émission existe, mais depuis presque 10 ans, je continue ce travail grâce à vous. Donc si vous voulez que ça continue encore 10 ans de plus, vous pouvez soutenir sur patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à toutes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et du coup, quelques news plus rapides. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, quand tout le monde allait quitter Netflix parce que le partage s'était terminé, eh bien, des infos un peu parcellaire qu'on a eu, semble indiquer que au moment où Netflix a mis fin au partage, eh bien, ils ont gagné plus d'abonnés en une période de 4 jours, on parle des US uniquement, hein, mais ils ont gagné plus d'abonnés en une période de 4 jours que depuis que le service qui traque ça les traque depuis 2019. En gros, comme d'habitude, les gens disent « Oh, c'est un scandale, on va partir !» Ça n'a pas l'air de se reflété dans la réalité. Ça ne surprendra
pas. Quelle surprise. Non, d'autant que là, tu veux, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, tu vois, fait du passé table rase du jour au lendemain sans prévenir. Ils ont prévenu, ils ont rajouté un truc pour que tu puisses rajouter quelqu'un en option. Enfin, ils ont quand même pris un peu les gens par la main. Et puis, ça faisait quand même très longtemps qu'ils avertissaient en disant « Bon, on vous aime beaucoup sur le partage de mots de passe, mais enfin, il y a peut-être une limite un jour, etc. » Bah, la limite, ils l'ont trouvée. Donc non, c'est pas très surprenant que tout à coup, des gens se disent « Bon, bah, je vais prendre un deuxième abonnement pour... » Enfin, c'est... Voilà. Et puis, que surtout, en fait, il y a le bâton. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens chez qui ça s'est mis à plus marcher. Bon, bah, ils ont fait un choix en disant « Est-ce que je veux regarder la suite de... » Tu vois, c'est... Bon, oui, je veux. Bon, bah, ouais, clique là. Voilà. C'est Bridgerton.
Ouais. C'est vraiment le truc où... Les gens disent « Oh, mais moi... » Enfin, oui,
jamais.
Bon,
ouais,
ça ne surprend pas.
Jamais.
Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont des abonnés. Hein, mais... d'ailleurs, oui. On parlait d'Apple et des questions de sport. Il semblerait qu'Apple...
Ils sont allés créer un subreddit.
C'est ça. Messi, qui part aux États-Unis pour jouer dans la Major League Soccer, aurait un documentaire qui arrive sur Apple TV+, et aurait possiblement un partage des revenus, des abonnements pris pour le Major League Soccer chez Apple TV. c'est fort quand même.
C'est bien parce que c'est intéressant. C'est rare d'avoir des gens dont tu peux dire qu'ils sont en position de force dans une négociation avec Apple.
Ouais.
c'est le cas de Lionel Messi, hein, complètement.
Ah bah grave, c'est ça.
Et non, mais il faut reconnaître, je suis peut-être très bête de dire ça, mais entre m'abonner à la MLS aujourd'hui et m'abonner à la MLS s'il y a Lionel Messi qui termine sa carrière là-bas, je suis un petit peu plus intéressé par la proposition où je peux voir les derniers matchs de Messi de sa carrière. Je suis pas sûr que je m'abonnerais parce que c'est quand même tard, mais bon, dans tous les cas, l'offre est beaucoup plus intéressante avec Lionel Messi dans la ligue, donc. C'est pas étonnant, c'est déjà arrivé dans l'histoire du sport que des grands joueurs négocient des parts dans les abonnements, parce que les abonnements, c'est ce qui rapporte le plus de revenus dans le sport en général, et finalement, c'est logique que ceux qui rapportent des abonnements soient aussi rémunérés là-dedans. Donc oui, c'est en effet une drôle de configuration d'imaginer que Apple va payer Lionel Messi pour qu'il joue au football aux États-Unis.
C'est ça.
C'est le cas.
C'est toute la question du partage de revenus, parce que les seuls revenus de ces plateformes, c'est l'abonnement. Et encore, l'abonnement, il est souvent, tu vois, offert avec, rajouté en plus de, packagé avec autre chose, etc. Donc, tu peux pas faire du... Alors, tu pourrais faire du partage de revenus en disant, voilà, sur l'audience. Mais c'est un peu plus compliqué. Ouais. De toute façon, la capacité de Lionel Messi à gagner de l'argent, j'en ai jamais douté. Hein, c'est pas...
Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il y a un autre truc. Alors, je ne sais pas si c'est surprenant, mais important, qui se passe aux États-Unis, c'est le procès que lance la SEC, Securities and Exchange Commission, l'organisme qui s'occupe de réguler les échanges financiers et boursiers. Un procès donc que fait la SEC à Binance. Binance, c'est la plus grosse plateforme de vente et d'échange de crypto-monnaies et de crypto-assets dans le monde, qui est dirigée par le très célèbre Changpeng Zhao. Et c'est un événement hyper important parce que, alors, ça va pas super bien pour les crypto-monnaies depuis quelques années, mais il restait quelques entités qui étaient respectables, on va dire. Et Binance était un petit peu le porte-étendard de la crypto-monnaie respectable. Et ce que dit la SEC...
Et Coinbase,
bien sûr, oui.
Eh oui.
Et ce que dit la SEC, c'est que Binance spécifiquement a déployé un réseau de tromperies et que leur mode de fonctionnement devrait être régulé. Alors... Binance répond que la SEC est tellement sévère qu'il n'arrive pas à aller vers la légalité parce que rien n'est accepté. Il y a une analyse très intéressante de Molly White qui analyse la réponse de Coinbase et de Binance au procès de la SEC. Ce que j'en retiens, c'est que en gros, elle dit oui. Alors Binance dit la SEC est super dure, donc on n'arrive pas à arriver vers la légalité. Mais il serait tout à fait possible pour, par exemple, un vendeur de cocaïne de dire « Oh, mais enfin, les règles sont tellement dures, on n'arrive pas à aller vers la légalité. » Il y a une sorte de parallèle, là. Et alors, je suis sûr que des fans de crypto vont m'incendier. Mais ce qui est clair, c'est que je ne sais pas si les cryptos devraient être légalisés, régulés. C'est pas de cette question que je parle. Mais par contre, ce qui est sûr... c'est que là, avec le procès sur Binance, c'est un énorme coup porté à la respectabilité des crypto-monnaies.
Ouais, alors Binance, c'est quand même un cas particulier, parce que c'est une entreprise qui, pendant longtemps, n'avait même pas d'adresse, donc c'est un peu particulier. Donc c'était très compliqué non, d'ailleurs,
enfin,
de faire un procès.
Comme ça, les...
Non, parce que, alors, par opposition, parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais, mais il y a Coinbase. Parce que Coinbase, c'est une entreprise américaine, cotée en bourse. Enfin là, si tu veux, on était, car en tout cas, tous les apprêts de la respectabilité, et avec un discours public qui dit non, mais nous, on trouve très bien que tout ça soit régulé, il est temps, etc. Et alors, il y a une grosse bisbille entre Coinbase et la SEC. En gros, la SEC leur dit, vous vendez des choses qui sont des instruments d'investissement au même titre que le serait une action ou une obligation. Et donc, vous le faites, mais sans respecter les mêmes règles. Enfin, ce sont des produits financiers qui ne respectent pas les mêmes règles. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, dans le dossier, parce qu'ils ont déjà quand même pas mal de... Ils ont du biscuit quand même à la SEC pour intenter ce genre d'action. Ils ont trouvé l'ancien responsable de la conformité, en gros, qui envoyait des messages internes en disant « Non, mais les mecs, vous vous rendez compte qu'on est en train d'opérer une plateforme de d'échange de unregulated securities aux États-Unis, c'est quand même dingue. Enfin, tu vois, ok, merci. et alors, à tel point que la SEC a même listé une liste de crypto en disant ça, c'est, voilà, toute celle-là, c'est impossible. Dans l'eau, il y en a de plus connues que d'autres. Il y a Solana, il y a des trucs comme ça. Mmh. Et alors, il y a aussi, là, pour le coup, c'est le meilleur exemple, des cryptos qui sont juste des copies en crypto du cours d'action à la bourse. Si tu veux, tu peux acheter une crypto qui te donne les mêmes évolutions de cours que l'action Amazon ou que l'action Tesla ou que l'action, etc. Là, clairement, on aura du mal à faire à la SEC un procès en mauvaises intentions. Mais
ce oui, sur le fait qu'ils disent, ben, vous vantez des outils d'investissement, enfin, vous opérez des outils d'investissement. Oui, quand on a une monnaie crypto ou un outil crypto qui suit le cours d'une action en bourse, ben,
tout est dit. Tout est dit. Et alors, à l'inverse, le patron de Coinbase lui dit, oui, alors attendez, mais nous, ça fait longtemps qu'on demande à la SEC sur quels critères il faut qu'on décide qu'une crypto, en gros, est légale, entre guillemets, ou non. Et la SEC nous donne pas vraiment ces critères-là, alors qu'on aimerait les avoir, etc., pour justement nous-mêmes, etc. Bon. Donc là, ça va quand même mettre un grand coup de balai dans plein de trucs, parce que d'autres ont réagi de manière préventive. Je pense à des plateformes comme Robinhood, etc., qui eux, ils ont pas arrêté de te vendre des cryptos, hein.
Celles qui étaient les Solana, c'est et ça, les trucs.
C'est, là, c'est... Voilà. Là, ils ont dit, bon, finalement, apparemment, c'est plus possible, donc on va arrêter de le faire, parce qu'on aimerait ne pas finir en prison. Parce que c'est aussi comme ça que ça va finir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens... Bon, on reparle pas de FTX, parce que lui, il va aller en prison pour toujours. Mais et parce que c'est aussi ça, l'accusation contre Binance. Hein. C'est pas tant d'avoir permis l'accès à ces cryptos qui font débat. C'est aussi d'avoir joué un peu avec avec l'argent de ses clients. En gros, d'avoir pioché dans les comptes clients pour aller investir, etc. Ce qui était, en gros, c'est un truc qui est la suite de FTX, parce que FTX, c'est quand même c'est la plus grande escroquerie de l'histoire du rock'n'roll. Où en gros ils allaient prendre dans les comptes clients pour faire leurs frais courants, investir dans d'autres boîtes. Enfin, ils confondaient ils confondaient le chiffre d'affaires et le bénéfice à la louche, quoi.
Mais si tu sais pas ce que t'es pas ni une banque, ni un conseil d'investissement, ni un machin, tu dis on a de l'argent, on va l'utiliser pour ça. C'est vraiment le bordel. Et c'est ça.
Et que ton siège est aux Bahamas juste parce qu'il fait meilleur probablement. Ouais. Ça doit être juste pour le climat.
Complètement, ouais.
Bon, mais c'est intéressant parce que justement, on se disait que Coinbase était un peu à l'abri de ce genre de choses, même s'il y aurait toujours un débat, si tu veux, à peu près constant entre le régulateur et ces plateformes-là. Ils sont pas à l'abri. Mais en gros, ce que dit la SEC, c'est que tu as le droit de faire des cryptos, de les vendre, si elles ne sont pas juste un véhicule d'investissement. Voilà, il faut qu'elles aient en gros une utilité intrinsèque. Il y a plein de gens pour qui ça va être vachement compliqué maintenant, quoi.
Et j'imagine que il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit tout l'écosystème s'effondre parce que à force lui mettre des coups, ça finit par casser. Soit le système se retrouve confiancisé et régulé parce qu'a priori vendre des véhicules d'investissement, c'est possible. On vend des actions, on vend des trucs. Il est tout à fait possible de le faire, mais c'est régulé de manière assez stricte. Et il y a des obligations pour les opérateurs dans ce genre d'industrie, et peut-être qu'elles seront clarifiées, imposées au Binance et au Coinbase, etc., et que le secteur s'en retrouvera solidifié. Bon, à ce stade, on ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va aller. Il y a des histoires de véhicules et de Tesla dont on découvre qu'il y a beaucoup plus d'accidents. Alors, je sais que Cédric va être motivé pour parler de tout ça. En gros, ce qui se passe, c'est qu'une étude approfondie des données de la NHTSA aux États-Unis qui regroupe les informations sur les accidents des véhicules indique qu'il y a beaucoup plus d'accidents avec des Tesla que ça n'a précédemment été mentionné, dit par rapporté, Tesla eux-mêmes, ouais. Rapporté. Il y a des petites astuces de communication de Tesla qui comparent des choses qui sont pas forcément comparables pour dire « nous, ça va très bien ». Dans la pratique, il semble que quand on compare les véhicules récents et surtout les véhicules autonomes, ce qu'il semble ressortir, c'est que les utilisateurs de Tesla ont tellement confiance dans le contrôle total du véhicule automatisé que ça provoque des incidents et des accidents fatals parfois. Et donc, en gros, Tesla n'est vraiment pas assez prudent avec ce qu'ils mettent en place et la manière dont ils communiquent. Les autres constructeurs sont beaucoup plus prudents dans ce qu'ils permettent à leur voiture de faire et dans la manière dont ils le communiquent avec leurs utilisateurs, ne serait-ce que la communication dans l'habitacle du véhicule. Il y a beaucoup d'instances, visiblement, où des utilisateurs de Tesla, des conducteurs, ne savaient pas que le full self-driving était désactivé. Et ils s'en sont pas rendu compte. Ils étaient activés, ils s'est désactivés, ils s'en sont pas rendu compte parce que c'est pas clairement communiqué, contrairement à d'autres constructeurs qui t'allument toutes les lumières rouges, ça fait des alarmes, etc. Et on voit par exemple le cas de Mercedes-Benz qui a reçu l'autorisation en Californie de déployer son pilote automatique niveau 3. Mais c'est limité à des routes spécifiques, dans des situations spécifiques, etc., etc. En gros, c'est quand t'es coincé dans les embouteillages, bon, bah, tu peux lancer un film et garder un œil sur tes indicateurs qui te disent si tu dois avoir les mains sur le volant et faire attention ou pas. Et alors que, on le sait, Elon Musk dit depuis des années, full self-driving, vous faites ce que vous voulez, vous prenez un bain dans votre bagnole, et c'est ça qui est très problématique, semble-t-il, avec les dernières données qu'on voit chez Tesla. Je sais que c'est Cédric aura des trucs à dire.
Oui, on est Nicolas d'abord.
Mais voilà.
Oui, c'est un sujet très intéressant. En général, pas forcément la révélation de ces données-là. En général, la question de la responsabilité en cas de conduite autonome, la question de est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on doit considérer que s'il y a eu une mort alors que l'autopilote était activé, bah, c'est la faute de l'autopilote. Tout ça, c'est, je trouve ça extrêmement passionnant. Le problème, c'est que tout ça, c'est toujours à remettre en perspective, et ça, c'est des éléments que j'ai pas en compte. Il y a toujours cette question de est-ce que la moyenne de décès en autopilote est plus élevée que la moyenne en temps normal, parce que les accidents ne sont pas seulement causés par le conducteur, mais peuvent être causés par les personnes en face, et surtout dire
alors,
que...
J'ai la réponse sur ce point. Qui est effectivement hyper important. Quand je disais il faut comparer ce qui est comparable, les résultats de Tesla sont mauvais. Ils sont mauvais. Pourquoi ? Et c'est pas que les Tesla sont foncièrement mauvaises, c'est juste que la marque promet trop et les utilisateurs en demandent trop, tu vois ? C'est ce qui
en fait,
semble
ça, j'allais y venir en second point de réflexion. D'abord, je voulais poser la question de quand on dit décès avec autopilote, accident avec autopilote, est-ce que c'est l'autopilote qui cause les accidents ou est-ce que l'autopilote était actif au moment de l'accident ? C'est aussi important à prendre en compte.
Et c'est pour ça que je dis
deuxième point de ma réflexion.
C'est pour ça que je disais, parfois, les gens ne se rendent pas compte que l'autopilote a été désactivé. Et c'est donc l'autopilote n'est pas activé. Et donc, mais il est quand même responsable.
Mais en tout cas, voilà, on considère. Et le deuxième point de réflexion que j'ai, et je pense que là, on va être tous les trois d'accord, ça concerne la communication de Tesla, ça concerne le fait d'appeler cette technologie autopilote, alors qu'elle n'est pas de l'autopilote, c'est une assistance au maintien de cap, c'est comme ça que ça s'appelle dans les réglages. Le fait d'appeler, de parler de full self-driving et de vanter dans des vidéos promotionnelles depuis des années le fait que la voiture va nous récupérer en bas de la maison, nous déposer à un endroit et aller se garer toute seule, alors que non, elle n'en est pas encore capable, que ce soit légalement ou techniquement sans doute. Je pense que Tesla, à vouloir se faire passer pour celui qui a inventé la conduite autonome et celui qui a beaucoup d'avance sur les autres, forcément créer un petit peu ce climat de confiance. On pense qu'avoir une Tesla permet de tout faire automatiquement et ça, c'est peut-être ce qui provoque ce décalage entre la réalité et leurs chiffres.
Il paye le péché originel qui était d'appeler ça autopilot. J'en comprends la tentation, hein. Et de fait, au quotidien, moi, je l'utilise énormément. Et c'est quand tu prends le périph, une autoroute, etc. C'est un truc remarquable qui marche très bien, mais faut pas non plus le surinvestir. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que je vais me dire tiens, faire une petite sieste, finalement, ce sera très bien. Je pense qu'il me réveillera quand je serai au péage. Non. Alors, le truc, c'est que le papier confond au sens de surimpose des chiffres qui sont de l'autopilot, donc la distance au maintien de cap, et puis le full self-driving, qui là est la conduite 100% autonome, qui n'est pas disponible chez nous là-bas. J'ai un doute dans le papier quand il dit que l'usage du full self-driving est passé de 12 000 à 400 000 personnes en un an. Pour rappel, ça coûte 100 ou 200 dollars par mois. 400 000 personnes, je suis même pas sûr qu'il y ait 400 000. Si, il y a quand même, s'il doit y avoir quand même plus de 400 000 Tesla aux États-Unis. Donc, je sais pas, j'ai un doute sur le chiffre. Je suis d'accord sur le fait que c'est probablement surtout d'abord une question de communication et de surinvestissement. C'est aussi lié au fait que ça devient plus visible avec, J'ai un ami, enfin, qui fait même partie de ma famille étendue, qui est américain, qui a vécu en France pendant 4 ans et qui là est reparti aux États-Unis, habite Los Angeles, et on se parlait il y a pas longtemps. Il me dit, mais tu sais comment on appelle une Tesla Model 3 chez nous? On appelle ça la California Corolla. C'est-à-dire que c'est le truc le plus courant du monde. Il y a plus que ça sur les routes partout. C'est devenu la voiture la plus courante, et pour des questions de coût, pour des questions de choix, bref. Et du coup, ça rend les problèmes plus visibles, bien évidemment. Évidemment, maintenant je suis d'accord avec Nicolas, d'ordinaire pour avoir un accident, le plus souvent il faut être deux. Et donc c'est à creuser, mais de fait, il ne faut pas surinvestir son autopilot. C'est pas un truc qui fonctionne. Enfin, là j'ai refait le test pour tout dire, parce que je vais faire réparer un petit truc sur ma Tesla. Et le QG historique de Tesla en France se trouve à Chambourcy, dans les Yvelines, pas très loin de chez moi. Et il se trouve que juste devant, il y a une petite départementale qui a pas de feu rouge, qui est la première route que tu empruntes quand tu sors au volant de ta Tesla. Donc évidemment, la tentation de mettre le pied dedans est juste trop forte. Enfin, c'est-à-dire que tu sais que t'as 1 kilomètre devant toi. Et la puissance publique n'a pas encore eu l'idée de mettre un radar à cet endroit. Il serait super rentable, le radar. Parce que tu sortes, parce que tu l'as emmené à l'atelier, etc., ou que tu sortes avec ta nouvelle Tesla Model S Plaid qui fait 0 à 100 en 2 secondes. Et en revanche, il y a une chose, c'est que moi, je me souviens, sur les premières que j'avais essayées il y a bien longtemps, je pouvais déclencher l'autopilot sur cette petite route, ce qui n'est pas vraiment gênant, c'est pas forcément le plus adapté, mais bon. Et ben, c'est plus possible. Je pense que voilà, Tesla détait sa carte en disant non, là, non, voilà. Donc c'est des trucs qui vont à la fois s'améliorer avec l'expansion du marché, et puis aussi devenir plus visible. Maintenant, et je veux pas faire mon Elon Stan, hein, parce que je suis pas un Elon Stan, mais à choisir, si je dois avoir un accident de voiture demain, je préfère l'avoir dans une Tesla.
Bien fait de dire que t'étais pas un Elon Stan quand même.
Non, mais parce que toute chose égale par ailleurs, c'est une voiture hyper sûre. C'est-à-dire que même de manière, tu vois, si une camionnette doit me rentrer dedans demain, sans même que, à l'arrêt, je préfère que ce soit dans une Tesla. Parce que c'est quand même vachement plus sûr. Parce qu'il n'y a pas de moteur qui va te rentrer dans les genoux.
Non, enfin, disons que là, il y a aussi des comparaisons à faire à d'autres véhicules électriques. On parle vraiment de la manière dont
bien sûr.
L'autonomie est implémentée chez
Tesla. Dont Tesla a mal communiqué là-dessus de manière, un peu optimiste.
De manière un petit peu musquesque. Il y a des problèmes avec les véhicules d'urgence, par exemple, qui voient pas bien quand ils sont arrêtés. Il y a des problèmes avec les motos qui sont pas assez bien repérées, etc. Donc, en gros, c'est pas que la technologie est moins bonne sur les Tesla qu'ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est juste que il y a trop d'enthousiasme et d'utilisation, d'après ce qu'on comprend. On va conclure avec un dernier sujet qui est le début des problèmes pour les réseaux décentralisés. En gros, vous connaissez Blue Sky, hein, qui est le dernier concurrent de Twitter en date, qui est un réseau qui est, on va dire, qui a été lancé par Jack Dorsey à l'époque où il était encore à la tête de Twitter, comme alternative future, en ayant un réseau décentralisé. C'est celui-là qui vous permet d'avoir différents types d'algorithmes pour suivre ce que vous voulez. On commence à être confronté au premier problème de modération. En gros, il y a un groupe d'utilisateurs qui a commencé à demander de la modération, et ce qu'a répondu Blue Sky, de propos racistes, ce genre de choses, et ce qu'a répondu Blue Sky, c'est oui, mais chez nous, la modération se fera par instance, parce que chaque instance pourra déclarer ses règles de modération, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'instance, il n'y a qu'une seule instance, c'est celle de Blue Sky. Alors, il y a quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, hein. Mais déjà, le problème de la modération commence à se faire jour là-bas. Moi, ça ne me surprend pas trop, et je pense que c'est Il y a une alternative au réseau type Twitter, mais il y a aussi des inconvénients clairs à avoir ce type d'organisation pour la modération et puis pour des instances qu'on ne pourra plus modérer aussi. Mais bref, ça commence aussi chez Blue Sky.
Oui, c'est pas surprenant. On avait vu Mastodon, on a vu tous ces réseaux décentralisés apparaître de partout et malheureusement, c'est compliqué d'imaginer, rien que d'un point de vue de la complexité, d'imaginer les utilisateurs basculer d'un réseau social avec un identifiant, un mot de passe et un serveur monde à des instances décentralisées avec des règles qui diffèrent en fonction d'un serveur, avec des modérateurs bénévoles. C'est compliqué d'imaginer que ce soit le futur des réseaux sociaux, même si c'est plutôt louable comme initiative.
Oui. Et c'est sur ce sujet qu'on va conclure l'émission. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pendant cette heure plus. C'était absolument passionnant. Merci à Nicolas de nous avoir rejoint pour la première fois. C'était un plaisir de t'avoir. Chef de rubrique chez Numérama. Du coup, j'imagine qu'on te retrouve sur Numérama au hasard.
Oui, sur Numérama, on a une longue vidéo YouTube prise en main du Apple Vision Pro, on en parlait en début d'émission, et avec plaisir pour revenir vous voir de temps en temps, c'était très cool, donc merci pour l'invitation.
Merci d'avoir été là, et effectivement, au plaisir de te revoir, peut-être à la rentrée à un moment, là, les vacances arrivent. Cédric, toi... Oui, je dis les vacances, vous savez, hein, je vais me prendre en juillet, les 3-4 semaines pour m'occuper des enfants quand ils ne seront plus à la crèche, évidemment, vous le savez, comme tous les ans. Mais vous ne serez pas seuls, messieurs, dames, il y aura évidemment des épisodes spéciaux et des épisodes animés par des amis pour vous occuper, pas d'inquiétude.
C'est ce que je me suis laissé dire.
Teasing. Cédric, toi, où es-tu sur Internet?
Écoute, j'ai eu une petite sueur froide la semaine dernière en regardant mon agenda en disant flûte, attends, mardi prochain, je fais le rendez-vous tech avec Patrick. Il faut que j'arrête de faire le rendez-vous tech et pour à la fin dire oui, au fait, je fais aussi les doigts dans la prise, un podcast remarquable sur la voiture électrique. Mais c'est promis, je vais faire un épisode vite. Donc j'ai fait un épisode de préventif. voilà, paru la semaine dernière pour pas me choper la même honte qu'à chaque fois. Allez le voir parce qu'en fait en fait c'est après. Un truc enregistré il y a quelques semaines à Montréal chez un ami et confrère remarquable qui fait lui aussi un podcast remarquable et on a comparé plein de trucs entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'était intéressant. C'est aussi intéressant de voir que la France par exemple est largement en avance sur l'explosion du marché du voiture électrique et de la voiture électrique et non pas l'explosion de la voiture électrique. Donc voilà,
il faut faire attention à ce qu'on dit.
On va pas renforcer des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, les doigts dans la prise sur votre plateforme de podcast préférée et sinon @Cédric sur Twitter.
Magnifique, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous avez les liens vers le compte Twitch où on est tous les mardis midi et les jeudis midi pour le rendez-vous jeu, le Discord où on s'amuse beaucoup avec plein de gens super sympas et le replay sur YouTube. D'ailleurs, j'ai mis sur frenchspin.fr, le site où il y a les émissions, on met le replay YouTube maintenant à la place de l'illustration. Donc, vous pouvez regarder ça sur YouTube si vous le souhaitez. Et voilà, donc on est partout, tous les liens sont dans les notes. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech, vous le connaissez, vous l'aimez, vous l'adorez, donc allez lui dire bonjour également. On vous fait des grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.